Je vous propose donc un texte, de méditer un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 46 à 55. Alors désolé, je parle un peu du nez, je suis enrhumé, j'ai une rhinophérose, donc c'est pas évident, mais ça va mieux. Là. Avec la grâce de Dieu, justement, on va parler de cette grâce qui nous amène à reconnaître la main du Seigneur, qui nous bénit, qui nous garde. Très important d'avoir le regard tourné vers le Seigneur. Hein. Donc Luc, chapitre 1, versets 46 à 55. Alors je sais, Noël est passé, enfin Noël, la date en Occident où qu'on a posé bon, de façon quasi arbitraire un peu finalement. Vous savez que pour les orthodoxes en Orient, c'est plutôt le 5 janvier, je crois. Donc, ou le 6, voilà. Donc finalement, bon, c'est pas tellement la date qui incombe, mais c'est surtout le sens que nous mettons dans ce que nous fêtons. Alors on lit ensemble ce texte et je relève dans ce texte donc la thématique de la reconnaissance et de la louange à Dieu. Reconnaissance et louange à Dieu. Marie dit alors de tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté de génération en génération pour ceux qui reconnaissent son autorité. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles, les humiliés au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim. Et il a renvoyé les riches, les mains vides. Il est venu en aide à Israël, le peuple qui le sert. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, en introduction, ce que je voudrais dire, c'est que ce chant magnifique de louange de Marie, il est magnifique justement, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est communément appelé le Magnificat, on prononce le T parce que c'est un mot latin. Et dans ce texte, on a beaucoup de références à l'Ancien Testament. Si vous avez une Bible d'études avec une chaîne de références, vous verrez que c'est une mosaïque de textes de l'Ancien Testament qui sont cités là par Marie. On a surtout le fameux texte de Samuel 2. Vous savez, Anne, la mère de Samuel, qui était stérile et qui pleurait quand elle était auprès d'Élie avec, pour monter. Et donc, vous savez qu'Élie pensait que elle était saoule ou je ne sais pas trop quoi, et puis non, elle dit « mais non, je pleure parce que je n'ai pas d'enfant ». Dieu l'a exaucée, Élie lui a donné une parole, et Dieu l'a exaucée, elle a eu un enfant qui s'appelle Samuel, qui après a été auprès d'Élie pour être à son école. Et Samuel est vraiment le dernier des grands juges d'Israël, le prophète vraiment qui a été puissamment utilisé par le Seigneur. Et donc, Anne s'est réjouie vraiment de ce miracle extraordinaire que Dieu avait fait dans sa vie. Et ce Magnificat, donc, que Marie chante finalement, est plein de réminiscences, de citations même de ce chant d'Anne. On a aussi des textes qui sont tirés des psaumes, d'Ésaïe, du Deutéronome. Bref, c'est vraiment une mosaïque de citations de l'Ancien Testament. Un théologien qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand, a dit à propos de ce cantique, ce cantique de Marie est le plus passionné, on pourrait presque dire le cantique de l'Avent le plus révolutionnaire qui ait jamais été chanté. Ce n'est pas la douce, la tendre, rêveuse Marie comme on la voit sur les images, c'est la femme passionnée, enthousiaste, qui parle ici. Un chant fort, un chant implacable de trône écroulé, de puissants humiliés et d'impuissance humaine. Il est vrai que Marie, dans ce texte-là, glorifie la puissance de Dieu. Elle l'exalte, elle l'adore. Elle lui reconnaît tout ce qui lui est dû, tout ce que chaque croyant devrait lui donner en termes de reconnaissance et de louange, à savoir la gloire du Dieu unique, et aussi, il y a les deux aspects dans ce cantique, la gloire du Dieu unique, mais aussi la miséricorde immense du Dieu sauveur, puisque ce cantique se termine par le fait que bien, Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il avait donnée à son peuple. Il n'a pas oublié ses promesses, et sa bonté donc, eh bien, se réalise au travers, bien sûr, de la naissance de Jésus, du Sauveur, de la promesse faite à Abraham et à ses descendants, comme il est dit dans les versets 53 à 55. Donc Marie vraiment glorifie Dieu. Donc la première chose au verset 47 que nous pouvons voir, c'est que Marie se réjouit. Elle se réjouit pourquoi et en quoi ? Elle se réjouit en Dieu son Sauveur. Elle est dans une grande joie et cette joie repose sur son Dieu qui est le Sauveur. Donc la première reconnaissance est tournée vers Dieu, se réjouir en Dieu, pas en sa bénédiction forcément, même si c'est le cas par après, mais c'est d'abord se réjouir en Dieu pour ce qu'il est, dans sa personne. Ce n'est qu'après que viendra la reconnaissance pour ce que Dieu accomplit. Mais même alors, ce qu'il fait, ce que Dieu fait, est forcément lié à ce qu'il est, c'est-à-dire il est le puissant, celui qui délivre, celui qui relève et celui qui va lui donner d'enfanter le Sauveur. Dieu ne pourrait accorder aucun bienfait si d'abord il n'était pas ce Dieu-là, ce Dieu puissant, ce Dieu sauveur. Et Marie donc loue son Dieu, le Dieu sauveur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. Elle exprime vraiment sa reconnaissance, et au-delà de la reconnaissance qui lui est, de cette grâce qui lui est faite, elle exprime sa joie, sa louange, d'une façon, je dirais, très extravertie. Donc cette joie qui l'habite est liée au fait que Dieu l'a choisie alors qu'elle se considère comme indigne de cette faveur. C'est ce que la Bible appelle la grâce de Dieu. Il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante, verset 48. Voilà, comme ça on verra mieux, encore mieux. Même attitude que sa cousine Élisabeth au verset 43. Vous savez, quand Marie, c'est juste les versets qui précèdent le Magnificat, quand Marie est allée vers Élisabeth, qui est sa cousine, je le rappelle, ce qui fait que Jean-Baptiste et Jésus sont cousins, au cas où on l'aurait oublié. Donc, quand Marie arrive vers Élisabeth, que dit Élisabeth ? Pareil, la même attitude de reconnaissance, d'humilité et de grâce. Il a porté, alors Marie a dit qu'il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Élisabeth dit, comment m'est-il accordé, donc vraiment cette attitude-là de reconnaissance, que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi. Donc, vous voyez, c'est quand on est touché par la grâce de Dieu, on dit souvent de certaines personnes, il est touché par la grâce. Et c'est devenu même une expression, je dirais, qui a été sécularisée hein, pour des gens qui ont reçu un don particulier, on dit, il est touché par la grâce. Bien, quand on est touché par la grâce de Dieu, qui plus est par la grâce de Dieu, eh bien, on est vraiment même dans l'étonnement. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît par là le décalage qu'il y a entre ce Dieu puissant au-dessus de nous, qui vient s'approcher de nous pour nous accorder son bienfait, nous, à nous-mêmes qui sommes pas grand-chose par rapport à lui, hein, bien sûr. Et donc il y a vraiment cet aspect d'étonnement, d'émerveillement. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Voir aussi dans l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie. D'ailleurs, chez Luc, il y a quatre chants. Il y a le Gloria, vous savez, les anges, puis le chant de Marie, celui de Siméon et celui de Zacharie. Et là aussi, je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Alors, là aussi, les traductions, c'est pas Marie pleine de grâce, c'est je te salue, toi, Marie, à qui une grâce a été faite. C'est un participe passif avec la racine charis, grâce. Tout le texte, pour revenir au chant de Marie, tout le texte de ce chant souligne la disproportion entre la puissance de Dieu et l'abaissement de Marie qui en est la bénéficiaire. Et ça, c'est quelque chose de très important pour comprendre ce qu'est la grâce de Dieu et pour avoir une juste relation avec Dieu. Une disproportion donc entre la grandeur de ce Dieu sauveur et la faiblesse de celui qui reçoit sa promesse. Je crois qu'on oublie ça souvent. On a tendance à parler de Dieu comme un pote, un copain, etc. Mais Dieu, il est le tout autre, le tout puissant. C'est ce que dit Marie, le tout puissant. Mais en même temps, il est celui qui s'approche de nous, celui qui est miséricordieux. Donc cette disproportion entre la grandeur du Dieu sauveur et la faiblesse de celle qui reçoit cette promesse. En réalité, Dieu se tourne vers Marie par pure grâce. D'ailleurs, comme il le fait pour chacun de nous, envers les faibles que nous sommes, pécheurs que nous sommes. Dieu a choisi, comme le dira Paul plus tard, les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. L'abaissement donc du verset 48 pourrait faire croire que Marie mériterait ce privilège parce qu'elle serait plus humble que d'autres femmes en Israël. Ici, en fait, il ne s'agit pas d'une disposition morale, et bien sûr encore moins d'un mépris porté aux femmes. Certaines traductions parlent de la bassesse de sa servante. Non, ce n'est pas une disposition morale de Marie particulière qui aurait favorisé la réception de cette grâce. Le texte souligne plus exactement son statut social au bas de l'échelle. Marie n'est pas la fille d'un notable. Marie n'est pas la fille d'un seigneur, Marie n'est pas la fille d'un riche propriétaire terrien de Palestine à ce moment-là, elle est juste une jeune fille de 15-16 ans, pas plus, une jeune fille de 15-16 ans, fiancée à un humble artisan, Joseph. Elle est d'extraction sociale très humble, de basse condition. Et voilà pourquoi donc, elle est touchée aussi par cette grâce. Et d'ailleurs, cette faveur divine à l'égard des défavorisés et méprisés par les hommes et la société est soulignée plus loin en lien avec le salut opéré par Dieu au verset 51 et 53. La figure de Marie donc fait écho à celle d'Anne, j'en ai parlé en introduction, la mère de Samuel. Vous trouverez le texte à 1 Samuel 1:11 et vous verrez les similitudes entre ces deux figures biblique. Je lis le texte d'un Samuel 1:11, justement, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, donc c'est Anne qui parle, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, vous noterez trois fois le terme de servante, je le consacrerai à l'Éternel. » Une servante qui plus est stérile, ce qui en Israël était une raison, malheureusement, d'ostraciser la personne, ou en tout cas, de la mépriser. Donc la seule et unique raison pour laquelle nous pouvons considérer que Marie a reçu cette si grande faveur est la suivante, Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Que ce soit Marie ou quiconque d'autre, personne ne peut se prévaloir d'une grâce en raison de sa propre valeur. Dieu fait grâce en Jésus-Christ qui a été fait pécheur à notre place, afin que nous devenions à lui justice de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut, indépendamment de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes ou pensons être. Dieu fait grâce aux pécheurs que nous sommes. Encore faut-il que ces pécheurs se reconnaissent tels. Ça, c'est important. Encore faut-il que ces pécheurs se reconnaissent tels, comme l'a dit Jésus, à celui à qui l'on pardonne beaucoup, il aimera beaucoup. Et ce qui nous permet justement d'avoir une relation puissante, forte, intime avec le Seigneur, une relation de reconnaissance, c'est le thème de mon message ce matin, c'est dans la mesure où nous nous reconnaissons tels que nous sommes, de pauvres et misérables pécheurs. De pauvres et de misérables pécheurs. C'est ce que nous sommes, frères et sœurs. C'est ce que nous sommes. Et ainsi, nous reconnaissons combien la grâce de Dieu est merveilleuse. Combien la grâce de Dieu est puissante. Combien Dieu nous aime. Combien Dieu est bon pour nous. Et nous marchons dans un chemin permanent de repentance et de reconnaissance. Grâce et reconnaissance vont ensemble. Parce que si vous considérez que vous êtes indigne de la faveur de Dieu, vous ne pouvez que vivre une vie entière de reconnaissance. Si vous reconnaissez que vous êtes indigne de la faveur de Dieu, vous ne pouvez vivre qu'une vie entière de reconnaissance. Et en même temps, à chaque instant de votre vie, cette grâce divine vous poussera à la repentance. C'est ce qui explique que la grâce de Dieu, sa faveur, ne peut en aucun cas se monnayer, s'échanger, se négocier et encore au moins être réclamée. La grâce de Dieu n'est pas un dû, mais un don. La grâce de Dieu n'est pas un dû, mais un don. C'est la raison pour laquelle nous devons être d'autant plus reconnaissants à Dieu et apprendre tout au long de notre vie ce que veut dire être libéral, c'est-à-dire non des calculateurs, mais des donateurs, des dispensateurs de grâce. Des dispensateurs de grâce. En ce moment, on parle du pardon, et commençons par la compréhension de la grâce de Dieu. Ce qui doit motiver notre reconnaissance à Dieu est que tout ce que nous avons, tout ce que nous avons reçu, frères et sœurs, est un don de la grâce et rien d'autre. Nous sommes des pécheurs sur qui Dieu a jeté son dévolu, comme il a fait pour Marie. Verset 48. Il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse. Bien nous aussi, nous sommes bienheureux. Nous avons été touchés par sa grâce, pour ceux en tout cas qui se sont reconnus comme des pécheurs qui avaient besoin du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Si ce matin, bien tu ne l'as pas reçu dans ton cœur, si vraiment tu penses que tu es pas pire que les autres, eh bien il faut que tu viennes à Dieu, que tu te reconnaisses comme celui qui est pécheur, qui a besoin de la grâce de Dieu pour que tes péchés soient pardonnés réellement. Car rien ne pourra bien remplacer le pardon que Dieu nous accorde, la purification qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Nous sommes donc bienheureux, nous aussi, à qui Dieu a fait grâce. Nous pouvons le dire d'ailleurs à chacun de nous, tu es bienheureux, tu es bienheureuse, hein, parce que le Seigneur t'a marqué de sa grâce, parce que le Seigneur t'a marqué de sa grâce. Et Marie, elle est reconnaissante, parce qu'elle a expérimenté la grâce de Dieu. Elle a expérimenté sa parole, qu'elle a reçue avec joie, cette parole qu'il a visitée. Elle a accepté la volonté du Seigneur. Par cette acceptation libre et entière, Marie a une relation intime, personnelle avec Dieu. C'est pour ça qu'elle dit « Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. » À cause de Dieu, mon Sauveur. Verset 47. Alors, quels sont les sujets de reconnaissance de Marie ? Elle loue Dieu pour sa grâce. Verset 46 à 48. Qui lui a donné comme le dit l'apôtre Paul, hein, qui c'est qui lui a donné à Dieu en premier pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu n'est le débiteur de personne. Et s'il répond à la foi de chacun, c'est parce qu'il a décidé de le faire et parce qu'il y répond. La foi est donc un vecteur pour que la grâce de Dieu, eh bien, se déverse sur nous. Alors, elle loue Dieu pour sa grâce. Elle loue Dieu pour sa toute-puissance. Verset 49. En effet, si une naissance virginale n'est pas le fruit de la puissance de Dieu, alors qu'est-ce que c'est que la puissance de Dieu ? Elle loue Dieu aussi, verset 49, pour sa sainteté. Dieu est différent. La sainteté de Dieu, ce n'est pas d'abord une sainteté morale, c'est d'abord le fait que Dieu est différent. C'est ce que la nature de Dieu n'est pas celle que nous partageons les uns les autres en tant qu'êtres humains. Ce que Dieu est différent. Il est le Dieu saint, c'est-à-dire celui qui est autre, celui qui ne partage pas notre condition humaine, limitée, pécheresse. Elle loue Dieu, Marie aussi, pour sa miséricorde et sa fidélité. Verset 50 et les versets aussi 54 à 55. Dieu n'a pas oublié les promesses, c'est bien ce qu'elle dit dans ce chant magnifique. Et Dieu n'a pas oublié les promesses qu'il avait faites à Abraham. Il a secouru Israël. Il s'est souvenu de sa miséricorde, verset 54, comme il avait dit à nos pères. Donc, elle loue Dieu pour sa fidélité. Dieu n'oublie pas. Dieu ne t'a pas oublié. Est-ce que tu entends cette parole ce matin ? Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ça, c'est la parole de l'ennemi qui voudrait te faire croire que c'est fini pour toi, que ton temps, il est fini. Dieu se souvient de sa promesse parce que Dieu est fidèle. Elle loue Dieu aussi pour sa bonté, versets 51 à 53, pour sa justice. Effectivement, Dieu juge toutes choses. Rien ne lui est caché. Ce qui est en honneur aux yeux des hommes, la propre justice des hommes est comme une abomination. Isaïe dira que la propre justice des hommes est un linge souillé. Vous entendez ça, cette expression ? Un linge souillé. La propre justice des hommes est un linge souillé. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous rendre purs. Il n'y a que le sacrifice de Jésus-Christ qui peut laver, purifier notre péché. Verset 48b, la fin du verset 48, Marie dit « Dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse. » Alors effectivement, encore aujourd'hui, nous pouvons dire que Marie fut bienheureuse et pour deux raisons. Pour deux raisons. D'abord, à titre personnel, verset 49, Marie dit que « Celui qui est puissant a fait pour elle, pour moi, de grandes choses. » Dieu l'a honorée. Dieu lui a communiqué une grâce exceptionnelle. Il a porté sur elle son regard d'amour et de grâce, alors qu'elle n'était qu'une humble servante, sans aucune reconnaissance sociale, dans une région de Palestine en plus méprisée, la Galilée, une région méprisée par les Juifs du Sud, de la Judée. Marie, issue d'une famille des plus modestes, fiancée à un humble artisan, oui, Dieu l'a honorée d'une façon extraordinaire en lui communiquant cette grâce exceptionnelle. Et puis, elle a été aussi bénie, aussi d'un point de vue plus large, c'est que Dieu l'a honorée en faisant d'elle le chaînon indispensable pour engendrer celui qui a écrasé la tête du serpent. Rappelez-vous la promesse dans la Genèse 3, verset 15, « Sa descendance écrasera ta descendance, c'est la parole qui est donnée à Ève, ta descendance écrasera la tête du serpent. » Dieu a honoré Marie en permettant qu'elle enfante celui qui allait devenir eh bien, le sauveur de tous ceux dans l'humanité qui allait bien reconnaître la promesse réalisée dans la personne de Jésus. Donc Dieu lui a fait la grâce d'être dépositaire de la promesse faite à Abraham, c'est bien ce qu'elle dit, pour le peuple d'Israël et pour toutes les nations. Il est venu en aide en Israël, verset 54, le peuple qui le sert, il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Marie, donc, est une servante privilégiée en ce sens qu'elle porte en son sein l'enfant roi, le Messie promis à Abraham et à sa descendance. Cette descendance dépasse le cadre étroit du peuple d'Israël. C'est à une postérité élargie, à l'ensemble des nations que s'adresse cette promesse. C'est ce que dira plus tard Paul en Galates, chapitre 3, verset 16. C'est à Abraham que les promesses ont été faites et à sa descendance. Et donc, Paul l'a fait une précision en parlant du singulier sa descendance pour dire qu'en fait, la descendance précisément promise à Abraham est celle de Jésus. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Et plus loin, il poursuit en disant que eh bien, ce ne sont pas simplement le peuple d'Israël qui est touché par cette promesse-là, mais aussi les nations. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, ni esclave, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, c'est-à-dire juifs ou non-juifs, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ si vous appartenez au Christ. Donc tout cela nous conduit à porter vers Dieu toute notre reconnaissance. Toute notre reconnaissance à l'exemple de Marie et notre louange, comme Marie l'a fait. Et je voudrais conclure ce message sur la reconnaissance et la louange par cette prière d'un philosophe qui s'appelle Søren Kierkegaard, luthérien, danois, qui parle justement de la reconnaissance de façon magnifique. Et il fait cette prière: Père céleste, c'est de ta main que nous voulons tout recevoir. Tu l'étends, ta main puissante, et elle prend les sages dans leur folie. Tu l'étends, ta main puissante, et les mondes passent. Tu l'ouvres, ta main compatissante, et elle rassasie abondamment tout ce qui vit. Et si parfois tu sembles la retirer de nous, nous savons pourtant que tu la refermes seulement pour y cacher une bénédiction d'autant plus surabondante. Ceux à qui tu as beaucoup donné élèvent leurs pensées vers toi, car ils savent que tout vient de toi. Et nulle abondance ne rassasie si elle ne vient de toi. De même, ceux à qui tu as peu donné savent que nul don venant de toi n'est si modeste qu'avec ta bénédiction, il ne soit surabondant. Tout est renfermé là, dans cette prière. Des plus petites choses aux plus grandes, rien ne doit nous empêcher de reconnaître la grâce de Dieu pour nous et de lui donner toute notre reconnaissance et notre louange. Alors je vous invite à la prière et à reconnaître dans votre cœur vraiment combien Dieu est bon, combien Dieu est bon pour nous. Arrêtons de nous lamenter, arrêtons de regarder ce qui n'est pas beau, ce qui ne va pas. Regardons la grâce de Dieu pour nos vies. Je sais qu'il y a des situations difficiles. Je ne suis pas naïf, rassurez-vous. Je ne suis pas dans le déni. Je sais qu'il y a des situations terribles. Mais apprenons, frères et sœurs, à remercier Dieu. Apprenons à le louer, frères et sœurs.